Bonjour à tous. L'Italie se réveille ce matin en quarantaine. Tout le pays est désormais concerné sur ordre du gouvernement à cause du coronavirus. Nous rejoindrons notre correspondant à Rome dans un instant. Vous entendrez ensuite les craintes des médecins de ville en France. Ils sont en première ligne face à cette épidémie et ils regrettent de n'avoir pas assez de masques à disposition. Et puis, que reproche l'UNEF à la plateforme d'orientation Parcoursup ? Le syndicat étudiant a saisi le Conseil constitutionnel. Il sera examiné à partir d'aujourd'hui. Face au coronavirus, toute l'Italie est placée à l'isolement, avec effet immédiat depuis la publication cette nuit d'un décret. En Italie, le bilan est désormais de 463 morts à cause du coronavirus. Plus de 9150 personnes sont contaminées. Le gouvernement justifie ces mesures de confinement par la nécessité de protéger les populations les plus fragiles. Seule façon, selon lui, d'endiguer l'épidémie, Bruce de Galzin.
Et l'Italie entière est en quarantaine. Elle devient zone rouge, zone protégée, comme l'a expliqué le chef du gouvernement. Nous n'avons plus le temps, des mesures plus sévères s'imposent, affirme Giuseppe Conte, qui interdit désormais tout rassemblement dans les lieux publics. Les écoles et universités resteront fermées un mois supplémentaire jusqu'à début avril. Bars et restaurants ne seront ouverts que jusqu'à 18h. Toutes les compétitions sportives sont suspendues, le championnat de foot notamment. Même les déplacements sont à éviter, sauf pour aller travailler. Les transports publics sont d'ailleurs maintenus, ou en cas de nécessité qu'il faudra prouver, ou pour des problèmes de santé. Le chef du gouvernement a résumé ces nouvelles directives d'une phrase « Désormais, je reste à la maison ».
Lui est allé dans une zone de confinement. Le président chinois Xi Jinping est arrivé ce matin à Wuhan, ville de l'épicentre du Covid-19. C'est la première fois que le dirigeant s'y rend depuis le début de l'épidémie. Une visite d'inspection, selon son équipe, qui a prévu des rencontres avec des habitants, des médecins, des malades, des responsables politiques. Une façon surtout de communiquer positivement, de montrer que cette épidémie est en train d'être endiguée en Chine. En France, il n'y a pas de confinement obligatoire tant que la maladie n'est pas détectée chez les personnes. Le ministère de la Santé encourage tout de même les consultations à distance. Mais Jean-Paul Ortiz, président de la Confédération des syndicats médicaux français, alerte sur la forte pénurie de masques chirurgicaux pour le personnel médical et pour les malades. Jean-Paul Ortiz le disait hier soir lors du journal de 22h sur France Culture au micro de Laura Dulieu.
Contrairement à ce que le ministère nous a affirmé depuis une semaine, nous n'avons pas et nous avons beaucoup de mal à avoir ces fameux masques chirurgicaux qui nous permettent de nous protéger. J'ai fait 3 pharmacies aujourd'hui pour moi, je n'en ai pas trouvé. Or, on nous avait dit qu'on débloquait en nombre important des masques chirurgicaux et que les médecins pourraient s'adresser aux pharmacies pour en avoir. Mais il n'y en a pas, ou il y en a extrêmement peu, et on nous les donne au compte-gouttes. Ça, c'est une situation extrêmement grave, parce qu'on est aux portes d'une épidémie, et les soignants de ville, les médecins, les infirmières, les kinés, les chirurgiens dentistes, etc., ils ne sont pas protégés vis-à-vis de cette infection, parce que nous n'avons pas des masques en quantité suffisante. J'espère que le ministère va prendre des mesures dans les plus brefs délais, pour que partout on puisse avoir ces masques, parce qu'il en faut un pour nous, soignants, et il en faut un pour le soigner à la moindre alerte, à la moindre suspicion de coronavirus. Et c'est cette double barrière, soignant-soigné, qui est optimum pour éviter la transmission de ce virus. Il faut absolument que tout le monde en soit largement doté dans nos cabinets.
Je rappelle le bilan donné hier soir en France par les autorités sanitaires. 25 morts depuis début janvier, 1412 cas confirmés. Et parmi ces 4 contaminations, il y a le ministre français de la Culture, Franck Riester, dépisté positif au coronavirus hier. Il reste donc chez lui et il annule ainsi sa participation aux réunions publiques lors de sa campagne électorale pour les municipales à Coulommiers en Seine-et-Marne. Une campagne qui par ailleurs se poursuit tant bien que mal avant le premier tour prévu dimanche. Un peu moins d'un tiers des Français pourraient ne pas aller voter par peur de ce coronavirus. En tout cas, Jérôme Sainte-Marie, sondeur politologue, président de l'Institut Pollingvox, anticipe lui 2 conséquences sur ces élections.
Certaines personnes auront peur de se rendre dans un lieu public fréquenté, donc avec possibilité de contamination réelle ou supposée. Et cela, ça risque de concerner avant tout les populations les plus fragiles, c'est-à-dire, d'après ce que l'on sait, plutôt les personnes âgées. Donc il y aura peut-être un différentiel de participation un peu inattendu. On sait que les personnes âgées, généralement, votent beaucoup plus, notamment au municipal, que le reste de la population. Cette crainte qui se répand pourrait avoir un effet de rééquilibrage. Mais il y a également un autre effet qui, lui, est tout à fait certain, c'est l'actualité. C'est-à-dire que au lieu d'avoir une campagne où, par exemple, on souhaiterait soutenir ou plus généralement s'opposer au gouvernement sur la question du 49-3, eh bien là, l'actualité porte beaucoup, beaucoup sur les sujets sanitaires et pour des raisons assez évidentes, la peur du coronavirus a un effet de distraction de l'attention par rapport aux sujets sociaux, mais également de plus faible mobilisation dans les rassemblements d'opposition à la réforme des retraites et au 49-3.
Des propos recueillis par Nicolas Joly pour France Culture. L'actualité du moment pour les lycéens et leurs parents, c'est aussi le baccalauréat et la préparation de la suite via Parcoursup, la plateforme post-bac, plateforme d'orientation. Alors que les élèves ont jusqu'à jeudi, c'est-à-dire après-demain, pour faire leurs vœux sur cette plateforme, le Conseil constitutionnel examine à partir d'aujourd'hui une question prioritaire de constitutionnalité déposée par l'UNEF. Le syndicat critique en fait la façon dont les universités choisissent les candidats à Kim Kasmi.
Ce que dénonce l'UNEF, c'est l'opacité dans l'examen des dossiers d'inscription des lycéens sur Parcoursup, notamment les algorithmes qu'utilisent les universités pour choisir leurs étudiants qui arrivent en première année de licence. Des algorithmes qui vont au-delà du type de bac obtenu en fonction des filières demandées, selon Mélanie Luce, la présidente de l'UNEF.
Dans l'algorithme, quand on vient d'un certain lycée, on a moins de chances de réussir pour, d'avoir une place dans la filière de son choix. C'est un problème. Que ce soit l'algorithme ou que ce soit l'origine du bac, pour nous, ce sont pas des critères qui sont légitimes pour trier les étudiants. Donc, il y a énormément de choses qu'il faut qu'on puisse savoir. Et quand on voit qu'il y a autant de réticence à nous donner les algorithmes, c'est bien qu'il y a quelque chose à cacher. Et c'est pour ça que nous, on espère que le Conseil constitutionnel va consacrer justement ce droit d'accès aux documents administratifs et nous permettre d'avoir accès aux algorithmes de Parcoursup.
Rappelons qu'en juin dernier, le Conseil d'État avait déjà annulé le jugement du tribunal administratif de Guadeloupe, ce qui avait obligé l'Université des Antilles à devoir publier ses algorithmes locaux. En attendant la décision du tribunal constitutionnel, les élèves de terminale ont jusqu'à jeudi pour inscrire leurs vœux sur la plateforme Parcoursup.
La fin du procès Fillon approche. Le réquisitoire du parquet national financier est prévu aujourd'hui. Les prévenus, Pénélope et François Fillon, encourent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, de lourdes amendes ainsi que des peines d'inéligibilité. Les dirigeants de l'Union européenne demandent à Ankara de respecter les termes d'un accord qui vise à éloigner les migrants des frontières européennes. Ils ont rencontré hier le président turc Recep Tayyip Erdogan à Bruxelles. Il est clair que nous avons nos désaccords, mais nous nous sommes parlé franchement, a conclu en fin de journée la présidente de la Commission européenne. Il y a un an, le 10 mars 2019, un Boeing 737 MAX de la compagnie Ethiopian Airlines s'écrasait peu de temps après son décollage de l'aéroport d'Addis Abeba. 157 personnes en sont mortes. Une cérémonie est prévue aujourd'hui sur les lieux de la catastrophe, alors que les critiques pleuvent toujours à l'encontre de Boeing et de son appareil. Le 737 MAX ne semble pas prêt de revoler, Grégory Phillips.
Le Boeing 737 MAX est un appareil fondamentalement défectueux et dangereux, conclusion de la commission des transports du Congrès américain qui la semaine passée a rendu son rapport implacable. Les représentants démocrates comme républicains parlent d'erreurs de conception technique et de dysfonctionnement dans le processus de certification de ces avions avec des conflits d'intérêts liant d'un côté la FAA, le régulateur aérien aux États-Unis, de l'autre le constructeur Boeing. Parallèlement, les autorités éthiopiennes ont aussi enquêté et arrivent à la conclusion que la formation des pilotes fournis par le constructeur était inadéquate, notamment en ce qui concerne le système MCAS qui devait prévenir un décrochage de ces appareils. De son côté, enfin, Boeing dit espérer un retour de ses avions dans le ciel à la mi-2020, mais ça paraît peu probable tant les problèmes techniques s'accumulent. C'est la crise la plus grave traversée par le constructeur depuis sa création il y a un peu plus d'un siècle. La production et la livraison des 737 MAX sont suspendues. Le directeur général de Boeing a été remplacé et l'an dernier, la société a perdu 18 milliards de dollars.
C'était Grégory Phillips depuis Washington pour France Culture. Le temps en France métropolitaine, il sera encore humide ce mardi sur une grande moitié nord du pays avec des averses soutenues et des nuages gris. Sur une large bande sud, en revanche, le soleil sera bien présent. Il fait ce matin 6 degrés à Besançon et à Lyon, mais déjà 11 degrés à Lille, 12 à Rennes et à Paris, 13 degrés à Bayonne et à Nice.